quand on réalise l'état dans lequel on était, est-ce qu'on méritait vraiment la colère éternelle de Dieu? Quand on réalise ce que Dieu a fait pour nous en Christ, par pure grâce, par amour, on ne peut pas faire autrement que de se dire « Je vais mieux que je ne mérite ». Le passage suivant, Éphésiens 2, les versets 11 à 22, se situe dans le prolongement direct du texte d'hier. Puisqu'on retrouve le schéma « autrefois, maintenant », ancienne situation, nouvelle situation. Une fois de plus, Paul souhaite que ses lecteurs pagano-chrétiens s'émerveillent en considérant l'écart impressionnant qui existe entre leur situation passée et leur nouveau privilège. On reste donc dans l'ambiance de l'émerveillement, mais autour d'un autre thème, le thème de la communauté cette fois. On s'intéresse aujourd'hui à la communauté qu'on forme ensemble autour de Christ. Communauté dans laquelle Dieu nous a intégrés en nous sauvant. Et la question que j'aimerais que chacun puisse garder à l'esprit au cours des prochaines minutes, c'est la suivante. Suis-je vraiment connecté? Suis-je vraiment connecté? Je ne parle pas du Wi-Fi, là. Ou suis-je un électron libre? L'être humain a soif de contact avec autrui. Même en Occident, même dans une société aussi individualiste que la nôtre, l'homme aspire à appartenir à un groupe d'individus, quel qu'il soit, qui contribue à donner du sens à son existence. Et les exemples ne manquent pas dans toutes sortes de domaines. On peut évoquer simplement des groupes d'amis ou encore des groupes de collègues de travail qui visent un même objectif, des familles nucléaires ou autres. Des gens qui ont une passion commune et qui se retrouvent autour de cette passion, de ce centre d'intérêt qu'ils partagent, et de nouvelles formes de communautés se créent. Pensons à Facebook. Qui parmi vous fait partie des 500 millions d'êtres humains qui sont sur Facebook? Je ne demanderai pas aux personnes qui ne sont... Ah, il y en a qui ont... Voilà, il y en a qui ont honte de le dire. Je pensais que ce serait plutôt ceux qui ne sont pas sur Facebook qui auraient honte de dire qu'ils ne sont pas, mais enfin, bref. Personnellement, je dois confesser que je ne suis pas encore sur Facebook. Pour l'instant, j'assume. Je dis pour l'instant parce que ça risque de devenir inévitable. C'est un peu comme les gens qui refusaient d'avoir une adresse mail il y a quelques années. Au fil du temps, ils se sont couverts de ridicule, donc je sens que je m'approche de ce point. Facebook a bouleversé notre manière d'interagir avec les autres, enfin la vôtre, puisque... Facebook nous a donné accès à une multitude d'informations, de données sur nos amis et sur tous les amis de nos amis. Dans un article récent, les ambitions du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, sont grandes. Enfin, cet article révèle que ses ambitions sont grandes. Il veut transformer notre monde antisocial qui favorise la solitude en un monde amical. Rien que ça. Un journaliste a traduit sa pensée dans les termes suivants. Vous travaillerez et vous vivrez à l'intérieur d'un réseau de personnes et vous ne serez plus jamais seul. Internet et le monde entier ressembleront davantage à une famille ou à une résidence universitaire. Alors ça, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Ou un lieu de travail dans lequel vos collègues seront aussi vos meilleurs amis. Facebook est certes un outil extraordinaire, mais est-ce que ce réseau social peut répondre à notre besoin fondamental de relation? Alors je vous laisse le soin de répondre, Facebookois, Facebookoise, Je ne sais pas s'il y a un terme consacré, mais enfin bref. Autre exemple, insolite celui-là, qui révèle le besoin de vivre des expériences de groupe intenses. Il y a quelque temps, près de l'Université McGill à Montréal, où j'ai fait une partie de mes études, des gens ont organisé, à la minute près, une bataille de polochon. Pendant les jours qui précédaient le jour J, on a envoyé des mails et des SMS pour dire à un maximum, un nombre maximum de personnes, à telle heure, tel jour, sur tel coin de rue, tout le monde sort son polochon et on fait une méga bataille qui va durer une minute. Puis on s'arrête et tout le monde disparaît. Et les règles sont strictes, attention. Vous ne pouvez frapper quelqu'un qui n'a pas un polochon, hein. C'est vraiment... Alors là, voilà la nouvelle communauté, la communauté du futur. On ne se connaît même pas, mais à une heure précise, à un endroit déterminé, on vit ensemble quelque chose d'authentique. D'existentiel. Et ensuite, notre communauté s'évapore et elle disparaît à jamais. Apparemment, ça se fait dans plusieurs grandes villes du monde. C'est intense. L'inconvénient, c'est que c'est un peu court. Une minute. Et enfin, j'évoque les événements sportifs internationaux. Ces dernières années, certains observateurs ont qualifié la Coupe du monde de foot, et c'est une citation d'un article important, de meilleure expression de tous les temps d'une vraie communauté planétaire. Meilleure expression de tous les temps d'une vraie communauté planétaire. Par la magie de la technologie, le monde entier se donne rendez-vous. Mais, encore une fois, ça ne dure pas. Et surtout, il y a ceux dont l'équipe gagne et ceux dont l'équipe perd. Donc, l'Afrique du Sud, c'était pas terrible pour l'esprit de communauté en France. Enfin, bref. Qu'est-ce qui peut vraiment satisfaire notre désir de former avec d'autres individus une grande communauté qui peut donner un sens à notre vie. En Éphésiens 2, 11 à 22, Dieu cherche à nous donner la réponse. Dans ce passage, il veut nous émerveiller par la communauté que nous formons autour de lui. Il veut nous faire comprendre ce qu'est la vraie communauté. Celle qu'il a imaginée pour sa gloire et pour notre bonheur dans l'éternité passée. Pourquoi est-ce qu'on aspire tous à faire partie d'une communauté durable, heureuse? Eh bien parce que Dieu l'a voulu ainsi. Ça fait partie de son projet. C'est notre Créateur qui nous fait soupirer après la vraie communauté et c'est aussi lui qui veut que nos soupirs se transforment en réalité et en communion intense. J'aimerais lire Éphésiens 2, les versets 11 à 22. Encore une fois, je vous invite à suivre dans votre Bible. Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ, car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne avec les deux un seul homme nouveau en faisant la paix et pour les réconcilier avec Dieu tous deux en un seul corps par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Père Céleste, nous sommes trop faibles pour arriver par nous-mêmes à nous émerveiller devant un tel texte. Mais secours-nous par ton esprit. Amen. Je vous propose deux parties pour ce message. Première partie, la double séparation, les versets 11 et 12. Deuxième partie, la double réconciliation, les versets 13 à 22. On commence avec la double séparation. Paul invite ici ses lecteurs pagano-chrétiens à se souvenir qu'avant la mort de Christ, qui s'est produite quelques décennies plus tôt pour eux, ils étaient séparés à la fois de la communauté héritière des bénédictions de Dieu, Israël, et de Dieu lui-même. Au verset 11, une séparation horizontale est décrite, une séparation entre communautés. Et au verset 12, une séparation verticale est détaillée, séparation d'avec Dieu. Commençons par la séparation horizontale. Verset 11, souvenez-vous donc de ceci, autrefois, donc schéma autrefois maintenant, autrefois, vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont, dans la chair et par la main des hommes. Alors déjà, il faut savoir que le mot païen n'a pas été inventé par les païens. C'était un terme dénigrant qui était utilisé à l'époque par les juifs, qui avaient souvent un petit complexe de supériorité. Ils utilisaient ce terme pour désigner tous les non-juifs. Ils traitaient les païens d'incirconcis, ou littéralement d'incirconcision. Vous êtes l'incirconcision. Et ce n'était pas très gentil. On doit bien sûr se garder de faire des généralisations en ce qui concerne le judaïsme du 1er siècle. Néanmoins, il faut reconnaître que certains juifs de l'époque allaient très loin dans leurs propos. Certains textes rabbiniques, qui sont certes plus tardifs, reflète sans doute des conceptions qui circulaient déjà parmi les juifs de l'époque de l'apôtre Paul. J'ai pris le temps de lire quelques passages, quelques-uns de ces passages cette semaine dans le Talmud, etc. Selon quelques-uns de ces textes, il n'était même pas permis à un Israélite de venir en aide à une femme païenne au moment de son accouchement, car cela aurait favorisé la venue au monde d'un païen. Il n'était pas permis à une femme israélite d'allaiter un bébé étranger. En revanche, il était permis de voler les biens d'un païen. Dans le Talmud, on lit ceci. Un païen est coupable qui tue un païen ou un israélite, mais pas un israélite qui tue un païen. Dans un commentaire juif sur le Deutéronome, on appelle un Midrash, on lit ceci. Quand Dieu donna la Torah à Israël, il se dressa et observa, et il n'y avait pas de nation capable de recevoir la Torah, sauf Israël. Quand Dieu fixa aux nations leur part, il leur donna pour part la Géhenne, l'enfer. Et c'est Israël qui emporta leur richesse. Paul rappelle à ses lecteurs non-juifs qu'ils étaient l'objet du mépris d'Israël, certainement pas de tous les juifs, mais de certains d'entre eux. Mais attention, Paul ne cautionne pas cette attitude de mépris de certains juifs. Il affirme d'ailleurs subtilement, à la fin du verset 11, que les circoncis le sont dans la chair et par la main des hommes. Ils le sont sur le plan physique, mais n'ont pas forcément tous la circoncision du cœur, dont parlait aussi l'Ancien Testament. Maintenant, la séparation verticale. Au verset 12, Paul rappelle à ses lecteurs païens qu'avant leur conversion à Christ, ils étaient spirituellement démunis. Ils étaient sans Christ, on pourrait dire sans Messie. Ils n'avaient pas l'espérance de la venue d'un grand libérateur. Ensuite, ils étaient privés du droit de cité en Israël. Ils ne prenaient pas part aux avantages spirituels, aux avantages sociaux de la nation. Ils en étaient exclus. En plus, ils étaient étrangers aux alliances de la promesse. Dieu avait conclu un certain nombre d'alliances avec Israël, mais pas avec les non-juifs. Et finalement, ils vivaient sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ils ne connaissaient pas le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Comme vous, je pratique OYA. Observation, interprétation, application. Mais ici, l'application n'est pas forcément évidente. Et j'ai passé pas mal de temps cette semaine à me dire, qu'est-ce qui constituerait une application légitime pour nous? Je pense que Dieu nous invite aussi ce matin à nous souvenir de quelque chose. Mais ce sera un peu différent de ses destinataires. Comme les premiers lecteurs de Paul, la plupart d'entre nous, j'imagine, sont des pagano-chrétiens, des chrétiens d'origine non-juive. Il y a peut-être aussi quelques judéo-chrétiens, mais ce ne sont certainement pas la majorité. Seulement, les destinataires d'Éphésiens venaient tout juste d'assister au grand tournant de l'histoire, au cours duquel la communauté israélite a cessé d'être le point de mire de l'action de Dieu, du projet de Dieu. Et Paul encourage ses lecteurs à réaliser que ce qui vient tout juste de se passer, eh ben, c'est énorme. Et c'est tout à leur avantage. Mais nous, eh ben, on vit 2000 ans après ce grand tournant. Alors de quoi est-ce qu'on doit se souvenir? Je pense qu'on doit se souvenir qu'on n'a pas toujours fait partie de la communauté bénie de Dieu, en l'occurrence l'Église. On n'a pas toujours fait partie de l'Église. Si tu t'es converti relativement récemment, disons au cours des dernières années, tu n'as certainement pas de mal à te rappeler à quel point tu étais déconnecté de la famille de Dieu. Il y a quelques années, Laura et moi avons eu l'occasion de faire un petit voyage en Turquie. On s'est retrouvés sur une petite plage presque déserte et on a fait la connaissance d'un couple français d'étudiants en médecine. On a commencé à parler avec eux. À l'époque, j'étais pasteur à Wittenheim. C'était toujours intéressant de voir la réaction des gens, surtout des jeunes, quand ils me demandaient ce que je faisais dans la vie et que je répondais, ben, je suis pasteur. Ça ne s'est pas beaucoup amélioré aujourd'hui, je suis prof de théologie. Enfin. En tout cas, ils étaient intrigués et donc ce soir-là, on s'est retrouvés sur une terrasse pour discuter. Et le jeune homme m'a expliqué qu'il avait hérité, lui, de l'athéisme de ses parents, mais que cet athéisme était devenu une sorte de prison pour lui. Il aurait aimé croire, il aurait aimé avoir la foi en Dieu et vivre avec une espérance, mais il s'en sentait totalement incapable. C'était impossible pour lui. Il était pris dans son athéisme, mais il se disait qu'il aurait voulu pouvoir partager mon expérience. J'avais presque l'impression qu'il m'enviait, qu'il aurait souhaité faire partie de la communauté des chrétiens. Il voyait la communauté de l'extérieur et il aurait aimé être à l'intérieur. Peut-être que tu te souviens aussi du fossé qui existait entre toi et l'Église. Même si tu viens d'une famille chrétienne, tu te souviens peut-être du sentiment de ne pas faire partie de l'Église. Personnellement, ma mère est chrétienne et mon père ne l'est pas. Ma mère s'est convertie quand j'avais 6 ans et elle nous a amenés, ma sœur et moi, à l'église baptiste à Saint-Hyacinthe et c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de rencontrer Dieu. Dès l'âge de 6 ans, j'ai entendu toutes sortes de témoignages de conversion au culte. C'était impressionnant. Mais pendant des années, je me disais, mais moi, j'attends toujours qu'il se passe quelque chose dans ma vie. J'allais à l'école du dimanche, mais je n'étais pas encore sauvé, ou en tout cas, je n'avais pas encore l'assurance de mon salut. Et combien je suis heureux aujourd'hui d'avoir été libéré de ce sentiment qui était même pour un enfant, c'est un sentiment horrible d'exclusion. Et peut-être que tu te souviens aussi de ça. Et même si tu n'as aucun souvenir de tes années pré-chrétiennes ou pré-conversion, c'est peut-être le cas parce que peut-être tu t'es converti, j'en sais rien, moi à l'âge de 4 ou 5 ans, tu peux quand même faire l'exercice suivant. Pense à ce que serait ta vie aujourd'hui, notamment sur le plan relationnel, si tu n'étais pas chrétien. Alors, moi j'ai du mal à m'imaginer, mais c'est un exercice qui en vaut la peine parce qu'il peut nous mener à l'émerveillement. Ça vaut le coup d'y penser. Tout ce que je sais, c'est que ce serait vraiment horrible. Ce serait vraiment terrible. Je serais sûrement comme cette personne qui s'appelle Sophie, que je ne connais pas, dans le livre consacré au désespoir dans la collection Questions suivantes des GBU, Sophie explique que son sentiment de solitude et d'incompréhension l'a menée au bord du gouffre. Elle dit ceci, « C'était d'abord un sentiment de distance quand j'étais en classe. Pas seulement la distance physique entre les élèves et moi, mais leur distance par rapport à mes préoccupations. Je me sentais isolé parce que les autres ne vivaient pas ce que moi je vivais et donc un écart s'est creusé entre eux et moi. Puis je me suis mise à me renfermer sur moi-même et après ça, je n'ai plus supporté de contact. Ensuite, je me suis déconnecté des autres et même des membres de ma propre famille. Une fois que je suis arrivé à ce stade, c'était facile d'envisager le suicide. Même la pensée de ma propre famille ne me retenait plus. Et parfois, je me pose la question, si je n'avais pas connu Dieu, si je n'avais pas connu la famille de Dieu, est-ce que je serais même encore en vie aujourd'hui ? J'aimerais qu'on passe à la deuxième partie, la double réconciliation, les versets 13 à 22. La séparation horizontale a été remplacée par une réconciliation horizontale et la séparation verticale a cédé la place à une réconciliation verticale. Dans les versets 13 à 18, cette double réconciliation est d'abord expliquée. Verset 13, « Mais maintenant, donc on vient de passer d'autrefois à maintenant, mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Vous, pagano-chrétiens, vous étiez loin, à la fois sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical, loin d'Israël et loin du Dieu d'Israël. Mais vous êtes devenus proches par le sang de Christ. C'est la croix de Jésus-Christ qui vous a rapprochés. » Verset 14, « Car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. » Il y avait deux grandes communautés, la communauté israélite et la communauté païenne. Mais Jésus-Christ a détruit le mur qui séparait ces deux communautés et il a créé une nouvelle communauté unique. Mais quel était ce mur de séparation, au juste ? Le verset 15 nous donne la réponse. Il a dans sa chair, c'est-à-dire par sa mort sur la croix, il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne avec les deux un seul homme nouveau en faisant la paix. Le mur de séparation, c'était la loi. C'était la loi. Dans certains textes juifs, la loi est comparée à une clôture qui entourait Israël et qui protégeait le peuple des influences païennes. Prenez simplement les lois alimentaires. Pour un juif, la communauté de table avec un païen était interdite. On ne pouvait même pas manger ensemble. Ça, c'est un mur de séparation. Et Paul nous dit au verset 15 que Christ a annulé la loi. Alors, ça ne veut pas dire que Christ a rejeté la loi, que Christ a méprisé la loi. Ailleurs, Jésus lui-même, c'est dans le Sermon sur la montagne, Jésus lui-même dit qu'il est venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, en Matthieu 5, 17. Mais ce que Paul écrit ici, c'est que Christ a annulé la loi en tant qu'alliance, en tant que grand système qui effectivement séparait Israël des autres nations. Christ a annulé l'alliance de la loi et il a introduit une nouvelle alliance. Dans cette nouvelle alliance, des gens de toute nation, de toute langue, forment ensemble un seul homme nouveau, selon le verset 15. Avec la nouvelle alliance, Dieu a créé une nouvelle humanité. L'Église est une nouvelle société, un seul homme nouveau. Et comme on l'a vu hier soir, l'Église s'inscrit dans la nouvelle création de Dieu et elle est le chef-d'œuvre de cette nouvelle création. Versets 16 et 17. « Et pour les réconcilier avec Dieu tous deux, en un seul corps par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. » Il est question ici de réconciliation avec Dieu par la croix de Jésus-Christ. Et remarquez bien que les Juifs, comme les païens, avaient besoin d'être réconciliés avec Dieu. Même si les Juifs avaient reçu d'immenses privilèges, même s'ils étaient proches, en quelque sorte. Ils avaient besoin de la même bonne nouvelle et de la même croix que les païens pour être réconciliés avec Dieu. Verset 18, car par lui, par Jésus-Christ, nous avons les uns et les autres. Et on pourrait traduire, nous avons les uns avec les autres. Il y a vraiment cette idée de communauté. Nous avons les uns avec les autres, tous ensemble, accès auprès du Père dans un même esprit. Ce qui caractérise par-dessus tout la nouvelle communauté que forment juifs et païens qui croient en Christ et la nouvelle communauté que nous formons ensemble, c'est qu'elle a accès auprès du Père dans un même esprit. Et là, on a le devoir de s'émerveiller. On a le devoir, la responsabilité de s'émerveiller devant cette vérité. Nous sommes la communauté qui a accès à Dieu grâce à Jésus. Grâce à Jésus, puisque c'est par lui seul, nous avons accès. Est-ce qu'on le réalise? Voici deux journées dans la vie d'un chrétien. Je me lève en retard un matin, je n'ai pas le temps de lire ma Bible, je n'ai pas le temps de prier, pas trop envie de le faire d'ailleurs. En prenant mon petit-déj en vitesse, je renverse du café sur ma chemise toute propre. Je me mets en colère devant les enfants. J'arrive en retard au travail. Mon patron me dit qu'il veut me rencontrer. Il me fait vite comprendre que le projet que je lui ai remis la semaine d'avant n'était pas à la hauteur de ses attentes. Avec les collègues durant la pause, la conversation est limite pour un chrétien. Limite, c'est le moins qu'on puisse dire, mais j'y participe quand même, sans trop écouter la petite voix de ma conscience qui me reprend. Le soir, je rentre à la maison, je suis complètement dégoûté. Il est tard, toute la famille a déjà mangé. Je mange donc seul ce qui reste du repas froid, en m'écrasant devant la télé. En fin de soirée, avant de me mettre au lit, je repense un peu à ma journée. Et je prends quelques instants pour prier, par habitude peut-être. Quelle est ma prière ce soir-là? Seigneur, je ne sais pas trop si tu m'écoutes. Tu as sûrement d'autres chats à fouetter. Mais juste au cas où tu m'entendrais, ben, je te demande de m'aider à mieux faire demain. Amen. Un matin, la semaine suivante, je me réveille à 6 heures. D'un bond, je quitte mon lit douillet. Je sais bien que le plan de lecture de la Bible recommandé par l'IBG me propose de lire 2 chapitres de la Bible le matin et 2 le soir. Mais ce matin-là, je lis les 4 chapitres le matin. Ensuite, je prie pour mon église locale. Je prie pour mes anciens que j'aime et que j'apprécie. Je prie pour tous les missionnaires que je connais. Il me reste un peu de temps, j'en profite pour prier pour les cousins, les neveux des missionnaires. J'arrive au travail avec 10 minutes d'avance. Mon patron le remarque et là, je sens que je viens de marquer un point. Pendant la pause, un collègue me dit qu'il accepte mon invitation à dîner le week-end prochain pour parler de la foi. Sympa. Je rentre à la maison, mon épouse m'attend avec le sourire. Elle m'accueille en me disant: t'es beau ce soir, mon chéri. On savoure tranquillement un bon repas. On en profite pour faire des projets pour les vacances qui approchent. Et avant de m'endormir le soir, je repense à ma journée et je prie. Quelle est ma prière ce soir-là? Père très saint, Dieu tout-puissant, Créateur de l'univers, de la terre, de la mer, de tout ce qu'elle contient, du ciel. Gloire soit rendue à ton nom élevé qui surpasse toute intelligence au siècle des siècles. Amen. Ça, c'est l'intro. Merci Seigneur pour ton immense amour pour moi. Merci de m'avoir autant béni. Je te loue pour tous les dons que tu m'as faits. Continue de m'utiliser avec puissance pour l'avancement de ton royaume au travail, dans ma ville, dans ma région, dans toute la France et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Laquelle de ces deux prières est la plus spirituelle? Dans les deux cas, je suis dans les patates, comme on dit au Québec. Ça, c'est une expression québécoise qui veut dire à côté de la plaque. Dans les choux, ouais. Nous, on aime bien les patates. Enfin, bref. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que mes mauvaises performances me séparent de Dieu et que mes bonnes performances me donnent accès à sa présence. Mais Dieu était-il mieux disposé à m'écouter, à m'accepter, à me pardonner le deuxième soir? Ça dépend du fondement de mon accès à Dieu. Si mon accueil de la part de Dieu dépend de mes performances, Dieu était effectivement beaucoup mieux disposé à m'accueillir le deuxième soir et j'ai eu raison de prier très rapidement et très timidement le premier soir. Mais si mon accueil de la part de Dieu dépend de la performance d'un autre, d'une performance déjà réussie, d'une performance parfaite, irréprochable, si mon pardon dépend de la mort de Christ sur la croix pour tous mes péchés, alors j'ai eu tort de me sentir rejeté de Dieu le premier soir et j'ai eu tort de me sentir davantage aimé de Dieu le deuxième soir. Son pardon, son amour, son accueil n'ont pas changé. Ils étaient les mêmes les deux soirs. Dieu se délectait de moi les deux soirs grâce à la beauté de Jésus-Christ qui m'est imputée. Selon Éphésiens 2:18, quel est le seul fondement de notre accès à Dieu? Par lui. Par lui. Nous avons les uns, les autres accès auprès du Père. Qu'est-ce qu'une communauté chrétienne? C'est un groupe d'individus qui ont accès à Dieu dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Et ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de notre Sauveur. La nouvelle humanité que Dieu a créée en Christ a un accès certain auprès du Père et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ devait mourir sur la croix à notre place pour nous rendre acceptables à Dieu. On passe rapidement à la double réconciliation imagée, les versets 19 à 22. Paul nous donne trois images pour nous faire réaliser notre privilège unique. Au verset 19, il écrit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints. » Quel honneur pour les païens! Grâce à la mort de Christ, ils sont intégrés dans le peuple de Dieu, dans le royaume de Dieu. Et nous aussi, non-juifs que nous sommes, on est intégrés dans ce même peuple. Quelle est la première image? La cité ou le royaume. Nous sommes citoyens à part entière de la cité de Dieu, du royaume de Dieu. Deuxième image, elle apparaît à la fin du verset 19, membre de la famille de Dieu. Et remarquez la progression en proximité horizontale et verticale. Non seulement membre de la cité de Dieu, mais membre de la famille de Dieu. Nous avons Dieu pour Père et nous sommes frères et sœurs les uns des autres pour toujours. Et la troisième image est décrite au verset 20 à 22, c'est la plus grandiose. Nous sommes le temple de Dieu. On ne peut pas imaginer une communauté plus proche de Dieu et dont les membres sont plus proches les uns des autres. Nous sommes son temple, il habite dans notre communauté et nous faisons tous l'expérience de sa présence par le Saint-Esprit. Christ est lui-même la pierre de l'angle, celui qui maintient tout l'édifice en place. Selon le verset 21, on forme un édifice qui grandit, qui s'élève. Des membres sont ajoutés régulièrement et l'édifice croîtra jusqu'au retour de Christ. Selon le verset 22, on est une habitation de Dieu en esprit. Par le Saint-Esprit, on goûte déjà à la présence de Dieu et à la joie de cette présence qui un jour sera parfaite quand on sera au ciel. Est-ce qu'on réalise ce que Paul dit ici? L'Ancien Testament annonçait qu'à la fin des temps, les païens allaient se rendre au temple de Jérusalem pour adorer l'Éternel avec les Juifs. C'était ce que l'Ancien Testament annonçait. Paul nous indique ici la façon surprenante et glorieuse dont ces prophéties se sont réalisées. Il ne suffit pas aujourd'hui de dire que Juifs et païens se rendent ensemble au temple pour adorer Dieu. Non. Mais Juifs et païens réconciliés par le sang de Christ forment ensemble le temple de Dieu. Nous sommes une communauté temple. Une communauté temple. Le temple de Dieu, c'est nous. Le temple de Dieu aujourd'hui, c'est nous. Il habite parmi nous. Dans le film à succès « Contact » avec Jodie Foster, film qui est sorti en 1997, donc je ne sais pas s'il y en a qui... j'ai peut-être trahi mon âge, là. C'était l'époque des films en noir et blanc, vous savez. Mais il y avait le son, quand même. Alors, dans ce film, l'être humain a réussi, par la science, à obtenir un petit contact avec le divin, ou en tout cas avec le monde extraterrestre. Suite au décodage d'une vidéo cryptée d'origine extraterrestre, on construit une machine complexe, une capsule contenant un seul être humain qui est lâché dans 3 gigantesques anneaux en rotation rapide. C'est pas mal, quand même. Et un jury international choisit le meilleur candidat pour représenter l'humanité dans cette expédition. Pour connaître la suite, vous pouvez regarder le film. Mais pour nous, c'est différent. C'est très différent. Dieu ne s'est pas contenté de nous donner un petit contact avec lui, petit contact de courte durée. Il nous a donné libre accès à sa présence. Le titre de notre film à nous, ce n'est pas « Contact », c'est « Accès ». Ce n'est pas la même chose. Et il n'a pas choisi le meilleur candidat parmi nous pour monter vers lui, mais il a choisi le meilleur candidat auprès de lui pour descendre vers nous. Afin que nous ayons tous ensemble accès à lui. Êtes-vous connecté? Êtes-vous connecté à Dieu? Connecté à vos frères et sœurs? Dimanche matin dernier, j'étais particulièrement assoiffé de connexion. Après une semaine assez difficile, j'étais fatigué, on venait de déménager. Il était question que je ne puisse pas aller au culte parce que quelqu'un devait passer pour faire certains travaux à la maison. Et Laura, elle, devait raccompagner un membre de notre famille à l'aéroport. Mais je me suis dit, tant pis pour les travaux. J'ai mis mes 3 garçons dans la voiture. Et on s'est rendu au culte à Ville-Lagrin. Entouré de mes fils, j'ai chanté les louanges de Dieu avec mes frères et sœurs. Puis j'ai écouté la prédication grâce au haut-parleur qui s'est situé dans la garderie, puisque je m'occupe de mon petit dernier dans la garderie tous les dimanches. Et je suis sorti du culte rafraîchi, même si mon église est loin d'être parfaite. Mais ce qui m'a fait du bien, ce n'était pas seulement le fait d'être avec des gens que j'apprécie. Et ce n'était pas seulement le fait d'écouter la parole de Dieu ou de chanter. Mais c'était le fait de vivre les deux en même temps. Des prédications, je peux en télécharger plein sur Internet et les écouter tout seul. Mais rien ne remplace l'Église. Parce que c'est grâce à elle qu'on est connecté horizontalement et verticalement en même temps. Et voilà ce qui est unique dans la communauté chrétienne. J'aimerais prier. Merci Seigneur parce que tu nous as intégrés dans l'Église. On ne le méritait pas et on ne faisait pas partie de cette Église par naissance. C'est grâce à Jésus-Christ. On veut te louer et te demander de nous aider à réaliser la grandeur de ce privilège. Au nom de Christ. Amen.